Chapitre 9. Le pistolero ne raconta pas tout cela au garçon, mais peut-être laissa-t-il filtrer l'essentiel. Il avait déjà remarqué à quel point ce garçon était perceptif, pas si différent d'Alain, qui avait une force faite d'empathie et de télépathie mêlée, et qu'on appelait le don de Shining.
Tu dors ? Demanda le pistolero.
Non ? Tu as compris ce que j'ai raconté ?
Compris ? Répéta le garçon avec un dédain surprenant.
Compris ? Vous voulez rire ?
Non.
Mais le pistolero se sentait sur la défensive. Jamais auparavant il n'avait fait le récit de son rite de passage, car il se sentait pris dans une certaine ambivalence à ce sujet. Bien sûr, le faucon avait fait une arme parfaitement acceptable, pourtant, il avait fallu un tour aussi.
Et une trahison. La première d'une longue liste. Et dis-moi, suis-je vraiment sur le point de jeter ce garçon en pâture à l'homme noir ?
J'ai compris. Ça, c'est sûr, fit le garçon.
C'était un jeu, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'une fois adultes, les hommes doivent toujours jouer ? Est-ce que tout doit leur servir de prétexte pour un autre genre de jeu ? Est-ce qu'il existe des hommes qui deviennent vraiment adultes, ou bien est-ce qu'ils se contentent de devenir majeurs ?
Tu ne sais pas tout, répliqua le pistolero tentant de réprimer une colère sourde. Tu n'es qu'un garçon.
C'est sûr. Mais je sais ce que je suis pour vous.
Ah oui. Et qu'es-tu ? Demanda le pistolero d'un ton tendu.
Un jeton de poker.
Le pistolero sentit monter la pulsion d'attraper un caillou et de fracasser le crâne du garçon.
Au lieu de quoi, il s'adressa à lui calmement.
Va dormir. Les garçons ont besoin de sommeil. Et dans son esprit résonna la voix de Martin en écho. Va retrouver ta main. Il s'assit dans le noir, le dos raide, terrifié et anesthésié par l'horreur, pour la première fois de son existence. L'horreur de cette haine de soi qui surgirait peut-être après. Chapitre 10.
Durant la période de veille qui suivit, la voie ferrée se rapprocha de la rivière souterraine et ils tombèrent sur les lents mutants. Ce fut Jack qui aperçut le premier et il poussa un cri. Le pistolero, qui regardait droit devant lui en actionnant la draisine, tourna brusquement la tête vers la droite. De sous eux montait une lueur verdâtre, digne de Halloween, qui battait faiblement. Ils prirent pour la première fois conscience de l'odeur, légère, humide, nauséabonde. La lueur verdâtre était un visage, ou ce qu'une âme charitable aurait appelé un visage. Au-dessus du nez aplati saillait une paire d'yeux d'insectes qui les fixaient d'un air impavide. Le pistolero sentit dans son intestin et dans ses parties une contraction atavique. Il accéléra légèrement le rythme des va-et-vient de ses bras. Le visage lumineux s'éteignit.
« Pour l'amour du ciel, c'était quoi, ça ?» demanda le garçon en rampant jusqu'à lui.
« Qu'est-ce qui... » La phrase mourut dans sa gorge lorsqu'ils passèrent à côté d'un groupe de trois formes qui scintillaient faiblement, debout entre les rails et la rivière invisible, à les regarder sans bouger.
« Ce sont des lents mutants, » répondit le pistolero.
« Je ne pense pas qu'ils nous feront des ennuis. »
Ils ont sans doute plus peur de nous que nous... » L'une des formes se détacha du groupe et se traîna dans leur direction. Le visage rappelait celui d'un débile affamé. Le corps, nu, opalescent, s'était transformé en un entremêlement hideux de membres et de ventouses tentaculaires. Le garçon hurla à nouveau et s'agglutina contre le pistolero comme un chien affolé. L'un des tentacules qui tenait lieu de bras à la chose vint s'aplatir en travers de la plateforme de la draisine. Il suintait des relents d'humidité et d'obscurité. Le pistolero lâcha le manche et dégaina. Il logea une balle dans le front du débile affamé. Il bascula en arrière, sa luminescence marécageuse s'effaça, comme une lune dans l'éclipse. L'empreinte lumineuse du coup de feu qui s'était imprimée sur leur rétine obscurcie ne se dissipa qu'à regret. L'odeur de la poudre répandue brûlait encore, chaude, sauvage et incongrue dans ce tombeau. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Aucun n'avançait ouvertement vers eux, mais tous se rapprochaient des rails, bandes silencieuses et immondes. « Il va peut-être falloir que tu pompes à ma place, » dit le pistolero. « Tu pourras ?»« Oui ?»« Alors, tiens-toi prêt. » Le garçon se tenait près de lui en position. Ses yeux ne percevaient les lents mutants qu'au moment où il le dépassait, ne cherchant pas à percer l'obscurité ni à voir plus que nécessaire. Le garçon ressentit une poussée de terreur médiumnique, comme si son moi intime avait littéralement jailli par ses pores pour former un bouclier. « S'il avait le don de Shining, » pensa le pistolero, « cela n'était pas impossible. » Le pistolero continua à pomper régulièrement sans accélérer le mouvement de ses bras. Les lents mutants sentaient leur terreur, ils le savaient, mais ils se demandaient si la terreur suffirait à les mettre en branle. Lui et le garçon, après tout, étaient des créatures de la lumière, des créatures intactes. « Comme ils doivent nous haïr, » se dit-il, et il se demanda s'ils avaient haï de même l'homme en noir. Il pensait que non, ou peut-être était-il passé parmi eux telle l'ombre d'une aile noire dans cette noirceur plus profonde encore. Le garçon émit un son de gorge et le pistolero tourna la tête de façon presque désinvolte. Quatre d'entre eux prenaient d'assaut la drésine en trébuchant. L'un d'eux notamment cherchait une prise. Le pistolero lâcha la poignée et dégaina de nouveau, de ce même mouvement souple et endormi. Il abattit le meneur d'une balle dans la tête. Le mutant poussa un soupir proche du sanglot et un rictus se dessina sur son visage. Ses mains devinrent molles et visqueuses comme du poisson, mortes. Les doigts formaient comme des gousses qui auraient baigné dans la boue humide. L'une de ses mains cadavériques attrapa le pied du garçon et se mit à tirer. Le garçon poussa un hurlement dans la matrice de granit. Le pistolero tira dans la poitrine du mutant. Il se mit à baver à travers son sourire. Jake basculait sur le côté. Le pistolero le saisit par le bras et fut presque déséquilibré lui-même. La chose était d'une force à peine croyable. Le pistolero lui mit une autre balle dans la tête. Un œil s'éteignit, comme une bougie soufflée. Pourtant la créature tirait toujours. Ils s'engagèrent dans une lutte acharnée pour le corps de Jake, qui tressautait et se tortillait. Les lents mutants tiraient sur ses jambes par saccades, comme sur un bréchet. Leur vœu serait indéniablement de faire ripaille. La drésine perdait de la vitesse. Les autres commencèrent à les encercler, les boiteux, les estropiés, les aveugles. Peut-être ne cherchaient-ils qu'un Jésus qui pourrait les soigner, les sortir des ténèbres, comme Lazare. « C'est la fin pour le garçon, » pensa le pistolero avec une froideur parfaite. « C'est la fin qu'il a programmée. Laisser faire et pomper, ou bien tenir bon et se faire enterrer. La fin pour le garçon. » Il tira de toutes ses forces sur le bras de Jake et tua le mutant d'une balle dans le ventre. Pendant une seconde suspendue, son emprise se resserra encore et Jake se remit à glisser du bord. Puis les paluches boueuses et mortes lâchèrent prise, et le lent mutant tomba le visage à terre, souriant toujours, derrière la drésine qui ralentissait. « J'ai cru que vous alliez me laisser, » sanglotait le garçon. « J'ai cru... »« Accroche-toi à mon ceinturon, » fit le pistolero. « Accroche-toi aussi fort que tu peux. » Les mains remontèrent jusqu'à son ceinturon et s'y arrimèrent. La respiration du garçon se faisait par grands halètements convulsifs et silencieux. Le pistolero se remit à jouer des bras à un rythme régulier et la drésine reprit de la vitesse. Les lents mutants reculèrent et les regardèrent s'éloigner avec des visages à peine humains ou d'une humanité pathétique, des visages qui produisaient cette phosphorescence sourde propre aux poissons étranges des profondeurs qui vivent sous cette incroyable pression noire, des visages qui ne trahissent ni colère ni haine, seulement ce qui ressemblait à du regret, idiot et à peine conscient. « Il se disperse !» souligna le pistolero. Les muscles bloqués de son bas-ventre et de ses parties se relâchèrent d'un soupçon. Les lents mutants avaient placé des pierres sur les rails. La voie était bloquée. Il l'avait fait à la va-vite. Il ne faudrait sans doute pas plus d'une minute pour se défaire, mais il n'en demeurait pas moins bloqué, et il faudrait que quelqu'un descende dégager le passage. Le garçon se mit à gémir et s'accrocha au pistolero en tremblant. Le pistolero lâcha le manche de la drésine et cette dernière alla cogner sans bruit contre les rochers où elle s'immobilisa dans une secousse. Les lents mutants commencèrent à se rapprocher presque avec désinvolture, presque comme s'ils ne faisaient que passer par là, perdus dans un rêve de ténèbres et qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui demandait leur chemin. Une assemblée de damnés sous cette montagne ancestrale.
« Ils vont nous avoir, hein ?» demanda le garçon d'un ton calme.
« Jamais de la vie. Tais-toi une seconde !»
Il jeta un œil en direction de la voie. Les mutants étaient faibles, et il allait de soi qu'ils n'avaient pas pu bouger eux-mêmes les rochers qui leur bloquaient le passage. Rien que des petites pierres. Juste histoire de les retarder, d'obliger quelqu'un à... « Descends !» dit le pistolero.
« Il va falloir que tu les déplaces. Je te couvre. »«
Non !» chuchota le garçon. « Je vous en supplie !»«
Je ne peux pas te confier une arme et je ne peux pas déplacer les pierres et tirer à la fois. Il faut que tu descendes !»
Les yeux de Jake roulèrent d'une manière horrible.
Pendant un instant, son corps trembla à l'unisson des pensées qui se tordaient dans son esprit. Puis, il gagna le bord de la plateforme en se tortillant, descendit et se mit à balancer les pierres à droite et à gauche avec une rapidité maladive, sans lever la tête.
Le pistolero dégaina et attendit.
Deux des créatures, titubant plus qu'elles ne marchaient, s'avancèrent vers le garçon, tendant leurs bras mous comme de la guimauve. Les pistolets remplirent leurs tâches, zébrant l'obscurité de lances de lumière incandescentes qui enfonçaient dans la rétine du pistolero leur aiguille de douleur. Tout en hurlant, le garçon continuait à balancer les pierres de part et d'autre de la voie. La phosphorescence diabolique sautait et dansait. Plus difficile à percevoir désormais, et c'était bien là le pire. Tout n'était plus qu'ombre et image rémanente. L'une des créatures, qui ne brillait plus qu'à peine, se jeta soudain sur le garçon avec des bras de croque-mitaine en caoutchouc. Elle roulait mollement des yeux humides qui lui mangeaient la moitié de la tête. Jake poussa un nouveau hurlement et se retourna pour l'affronter. Le pistolero tira sans même réfléchir, avant que sa vision tachetée de pointes de lumière ne trahisse ses mains en un tremblement fatal. Quelques centimètres à peine séparaient les deux têtes. Ce fut le mutant qui tomba. Jake se remit à lancer les pierres avec des mouvements vifs. Les mutants fourmillaient juste au-delà de la limite du visible, se rapprochant petit à petit, dangereusement près. D'autres les avaient rejoints, augmentant les troupes. « Bien !» dit le pistolero. « Remonte, vite !» Dès que le garçon bougea, les mutants se jetèrent sur eux. Jake avait déjà sauté sur la plateforme et tentait de se remettre debout. Déjà, le pistolero avait repris les commandes et pompait à fond. Les deux pistolets avaient repris leur place. Il leur fallait fuir, au plus vite. C'était leur seule chance. Des mains inconnues frappaient la plaque métallique de la plateforme. À présent, le garçon s'accrochait à deux mains au ceinturon du pistolero et il avait enfoui le visage dans le bas de son dos. Un groupe de créatures se mit à courir sur la voie, leurs figures remplies de cette attente stupide et désinvolte. Le pistolero était gonflé d'adrénaline, la drésine volait littéralement sur les rails, trouant l'obscurité. Ils percutèrent avec force les quatre ou cinq pitoyables mutants, ils volèrent comme des bananes pourries, en avant, toujours plus en avant dans les ténèbres maléfiques, tournoyantes et silencieuses. Au bout d'un long moment, le garçon leva le visage contre le vent, mu par le besoin de savoir, malgré sa peur. Les fantômes lumineux des balles scintillaient toujours sur ses rétines. Il n'y avait rien d'autre à voir que l'obscurité et rien d'autre à écouter que le roulement de la rivière. « Ils sont partis ?» dit-il, craignant soudain que la voie ferrée ne s'interrompe dans le noir et redoutant le fracas douloureux quand ils sauteraient par-dessus les rails pour plonger vers leur perte en tourbillonnant. Il était déjà monté dans des voitures. Une fois son père, cet être dénué d'humour, avait roulé à 130 sur l'autoroute du New Jersey. Il s'était fait arrêter par un flic qui avait ignoré le billet de vin qu'Elmer Chambers avait glissé dans son permis et qui lui avait mis une contredanse de toute façon. Mais il n'avait jamais fait de balade dans ce genre, à l'aveuglette, avec pour compagnon le vent et la terreur, devant comme derrière, avec le grondement de la rivière comme une voix qui gloussait. La voix de l'homme en noir. Les bras du pistolero étaient les pistons d'une usine humaine devenue folle. « Ils sont partis ?» fit timidement le garçon, et le vent lui arrachait les mots sur les lèvres. «
Vous pouvez ralentir maintenant. On les a semés. »
Mais le pistolet roux n'entendait pas. Il carénait vers l'avant, dans l'étrange obscurité.